du jeudi 1er novembre 2018. Au sommaire, l'intelligence artificielle, qu'en est-il de la formation dans ce domaine qui compte plus de 9000 étudiants au Québec? Coup de projecteur sur un secteur en pleine expansion à Montréal, à l'heure où l'entreprise Samsung annonce l'ouverture d'un nouveau centre de recherche en la matière. Alors quels sont les profils recherchés? Et surtout, l'euphorie vécue à Montréal est-elle partagée en région? Des éléments de réponse dans le reportage de Jessica Hébert, à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse C'est Science de notre économiste Audrey Azoulay sur les ingrédients qui rendent un territoire attrayant pour l'innovation. Et enfin, notre invité de la semaine, c'est Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec qui vient nous parler de l'avenir de la recherche au Québec et des enjeux de diplomatie scientifique. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 1er novembre 2018, qu'en est-il de la formation dans le secteur de l'intelligence artificielle, un secteur en plein boom à Montréal et qui compte plus de 9000 étudiants dans toute la province? Salut Jessica.
Bonjour Philippe.
Alors tu as voulu en savoir plus et vérifier si la formation de tous ces étudiants répondait bien aux besoins, je dis bien à tous les besoins de cette industrie en quête de main-d'œuvre.
Effectivement, et ce que j'ai obtenu, eh bien, c'est une réponse mitigée. J'ai appris d'abord qu'il existe deux types de profils en intelligence artificielle, un profil de chercheur et un profil plus appliqué. Du côté des chercheurs, eh bien, les formations universitaires répondent aux besoins, surtout au niveau des cycles supérieurs, particulièrement au niveau des doctorats. La plupart des chercheurs seront amenés à travailler dans des centres de recherche des grandes compagnies en intelligence artificielle, comme le nouveau laboratoire de Samsung. Par contre, ces entreprises recherchent vraiment des gens qui ont des doctorats et même des post-doctorats en recherche. Là où la formation répond moins aux besoins, c'est vraiment du côté appliqué, donc des gens qui sont capables d'appliquer les technologies sans être amenés à en développer d'autres. Selon Mathieu Germain, chercheur appliqué au MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, jusqu'à tout récemment, il y avait un énorme manque à gagner de ce côté, puisque les universités ou les formations en ligne ne répondaient pas à la demande. Ça se reflète beaucoup sur les perspectives d'emploi et ce, dans un marché très compétitif, comme l'explique Mathieu Germain.
Pour ceux qui sortent du PhD, c'est très compétitif de trouver des jobs, mais la demande est super grosse aussi. Pour ceux qui sortent de la maîtrise professionnelle, la demande est tellement immense pour ça que le job, ils vont se trouver automatiquement. Il y en a qui ont commencé là, deux sessions. Ils ont déjà leur stage de prêt, leur stage de fin de maîtrise. Puis, ils ont presque déjà une offre d'emploi associée.
Il faut savoir que le MILA, pour lequel travaille Mathieu Germain, a fondé il y a un peu plus d'un an une maîtrise professionnelle en projet appliqué. Et les universités commencent, elles aussi, à développer des programmes plus appliqués, notamment du côté de Montréal, à l'UDM ou à McGill, qui sont d'ailleurs affiliés au MILA, mais ce n'est pas suffisant.
Alors Jessica, on l'aura compris, grosse demande pour des profils plus appliqués. Les universités montréalaises, on le voit, se mobilisent. Qu'en est-il en région?
Eh bien, le développement de l'intelligence artificielle en région, c'est vraiment différent qu'à Montréal. Les cours sont offerts presque exclusivement au deuxième cycle et sont vraiment axés sur le côté recherche. Ce qui empêche beaucoup le développement des programmes en intelligence artificielle en région, c'est une question de financement. Comme Montréal est un pôle en intelligence artificielle, les grandes compagnies ont décidé de s'y établir. Il y a plus de projets de recherche qui y sont financés, laissant moins d'argent pour les projets de maîtrise ou de doctorat en région. Selon le professeur Froduval Kambaza du laboratoire de planification en intelligence artificielle de l'Université de Sherbrooke, le fait que les grands centres de recherche montréalais ont des partenariats avec certaines universités de Montréal et qu'ils favorisent les étudiants de ces universités, eh bien, ça désavantage aussi les étudiants des autres universités ailleurs au Québec. Il faut donc, selon lui, que les régions misent sur le développement de petites entreprises en intelligence artificielle pour rattraper le retard. Froduval Kambaza.
De ce point de vue-là, du point de vue de financement, les régions sont vraiment en arrière. Mais les besoins sont tels que, moi, je pense qu'il y a des opportunités pour des petites régions comme Sherbrooke. À mon avis, quelque chose qui pourrait se faire comme première étape, c'est de créer des entreprises, des petites entreprises du moins locaux, axées sur l'intelligence artificielle dans un premier temps, en fait.
Selon M. Kambaza, la situation devrait être amenée à changer dans les prochaines années. S'il considère qu'actuellement, vraiment, on met tous les œufs dans le même panier en misant exclusivement sur Montréal, ce qui risque de conduire à une saturation du marché, il pense que les grandes compagnies comme Samsung ou Google, qui n'envisagent pas nécessairement de s'installer hors métropole, eh bien, pourraient tout de même ouvrir des partenariats avec les universités en région afin de pallier au manque de main-d'œuvre.
Alors, autre difficulté pour les régions, Jessica, au-delà du financement des projets de recherche, c'est celle d'attirer les étudiants puis de les garder. Justement, tu t'es entretenue avec une étudiante à la maîtrise en intelligence artificielle à l'Université de Sherbrooke. Comment voit-elle la situation?
Cette étudiante, eh bien, c'est Marianne Ménard et elle confirme que faire de la recherche en intelligence artificielle en région, eh bien, ça apporte un défi supplémentaire. Je te propose de l'écouter.
Montréal, ça aurait été intéressant justement pour tout ce qui est des nouvelles approches en apprentissage profond. Donc, je dirais que pour avoir s'intéresser finalement aux approches les plus récentes, c'est peut-être plus difficile. Mais d'un autre côté, c'est un défi finalement. C'est peut-être moins facile que d'avoir accès aux gros chercheurs vraiment reconnus qui sont à Montréal.
Selon elle, la majeure partie des étudiants quitteront pour la métropole après leur étude, mais elle a déjà fait son choix. Elle souhaite demeurer en région.
Évidemment, on abordera la question avec notre invité. On rappelle, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, sera à notre plateau dans quelques minutes. Merci Jessica. Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors on vient d'évoquer dans le reportage de Jessica les difficultés d'attirer, de retenir en région les industries, les talents en intelligence artificielle. Mais même à Montréal, certains quartiers peinent à attirer des entreprises innovantes. C'est le cas dans l'Est de Montréal. Et le 26 octobre dernier, le Premier ministre et la mairesse de Montréal ont annoncé la création d'un comité conjoint pour la revitalisation économique dans ce secteur de la ville. C'est une première et c'est l'occasion pour le Premier ministre de lancer ces fameuses zones d'innovation.
Oui, François Legault fait donc suite à une de ses annonces électorales. Il avait promis que 2,6 milliards de dollars seraient dédiés d'ici à 2030 au redéveloppement économique de cette partie de la métropole. L'Est de Montréal est en effet déprimé sur le plan économique, après de longues années marquées par un dynamisme industriel déclinant. Alors les investissements prévus sont d'abord concentrés sur la décontamination des terrains, primordiale, la modernisation de la rue Notre-Dame et l'accessibilité de l'Est de la ville avec des projets de transport en commun. Aux côtés de la ville de Montréal, on envisage de définir un plan de développement économique pensé de manière globale, c'est-à-dire de manière plus durable. Enfin, le Premier ministre ambitionne également de compter cette partie du territoire, donc comme tu le disais Philippe, parmi les zones d'innovation, et c'est bien ce qui nous a interpellés. La perspective de voir un territoire économique d'abord axé sur des secteurs traditionnels pour trouver un nouveau dynamisme avec des activités innovantes est effectivement une perspective emballante. Cependant, attention, un projet économique que l'on veut porter par du développement territorial ne saurait se limiter à l'implantation d'infrastructures dédiées à l'innovation ou encore à la présence sollicitée d'entreprises technologiques. Lorsqu'il s'agit de réseaux d'innovation territoriaux, le territoire ne représente pas seulement l'avantage d'un lieu, mais aussi l'espace de lien. Autrement dit, que l'on parle de zones de pôle ou de grappe, ou même de parc industriel, eh bien la proximité n'est évidemment pas garante de viabilité.
Alors si la proximité n'est pas le gage de la réussite, Audrey, est-ce qu'il faut plus miser sur l'interaction entre les différents acteurs économiques du territoire ?
Précisément parce que en économie, c'est dans l'échange, y compris l'échange d'informations, que se construit la valeur. Et lorsque le marché change, c'est bien par la forme des relations économiques qu'il faut s'ajuster. C'est pour cette raison que l'on s'éloigne tous les jours un peu plus de l'entrepreneur innovateur solo typique de Schumpeter. La collaboration entre les entreprises et entre les institutions n'est plus optionnelle. Partout, on apprivoise de plus en plus les avantages de l'innovation ouverte, de l'innovation corporative. On se réunit dans des laboratoires d'innovation ou encore des accélérateurs de start-up. Dans ce contexte, les réseaux d'innovation territoriaux, parmi lesquels les zones d'innovation du Premier ministre, qui soit dit en passant, ne sont pas une forme nouvelle d'organisation industrielle, restent bien sûr un concept pertinent. La proximité permet notamment à l'information tacite, celle du face-à-face, de susciter des idées et des avancées. Mais la zone d'innovation de l'Est de Montréal devra trouver sa différence. Elle proviendra d'une combinaison inédite de coopération politique et de coordination industrielle. Et si l'on souhaite une croissance endogène et bien ancrée au territoire, eh bien, disons-le simplement, sa mise en place devrait nécessiter beaucoup de temps.
Bon, eh bien, écoute Audrey, comme le disait Alain Souchon, allons tailler la zone. Hein. On le fera comme ça. Merci Audrey.
C'est donc c'est science. Toute l'actualité des talents innovants au Québec.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Alors, nouvelle venue dans l'équipe, bienvenue.
Merci.
Alors, dans le reste de l'actualité, tu t'es arrêté sur le forum FinTech qui s'est tenu à Montréal cette semaine.
Oui, en effet Philippe, cette semaine avait lieu la 6e édition du forum FinTech, un événement organisé par Finance Montréal. Alors, Finance Montréal, on le rappelle, c'est un organisme qui a pour but de créer et de faciliter des occasions d'affaires dans l'industrie des services financiers et des technologies de l'information. Et justement, très bonne nouvelle pour l'industrie des technologies financières cette semaine, puisqu'un fonds de 198 millions de dollars a été créé par Portage Ventures, donc qui est une entreprise cofondée par Paul Desmarais. Parmi les investisseurs principaux, on peut notamment nommer la Banque Nationale. C'est donc un fonds d'investissement avec une position assez unique puisque c'est une des rares plateformes exclusivement consacrées aux technologies financières.
Et on rappelle, on vous invite à commenter l'actualité recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca ou bien sur notre page Facebook. Merci Émilie.
Merci.
C'est l'heure de notre invité. Cette semaine, Audrey, on reçoit nul autre que le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion.
Oui, Rémi Quirion est détenteur d'un doctorat en pharmacologie de l'Université de Sherbrooke. Il est chercheur en neurosciences et a été nommé scientifique en chef en 2011.
Rémi Quirion, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on va parler de politique de recherche, d'intelligence artificielle, de diplomatie scientifique. Mais avant de commencer, j'ai une question un petit peu personnelle. Et j'attends évidemment une franchise vraiment totale sur la réponse. Vous allez comprendre pourquoi. Les rapports scientifiques sont tous plus alarmants les uns que les autres. On parle d'un réchauffement climatique pour les 10 prochaines années qui ne sera plus de 2, mais bien de 4 degrés. Les conséquences sont inestimables. Certains disent même cataclysmiques. Les Nations Unies évoquent, je crois, c'est cette semaine, un génocide climatique en parlant des conséquences pour des centaines de millions d'individus. On évoque la 6e extinction massive du vivant. Alors, on est autour de cette table, on est tous des citoyens, des individus normaux, pour certains des parents. Et on se pose tous cette question que je vous pose à vous, qui êtes scientifique et scientifique en chef. Est-ce que ça sent la fin?
Non, moi, je suis toujours assez optimiste, là, mais je pense qu'il faut réagir. Et oui, au niveau des Nations Unies, les grands groupes qui de recherche dans le secteur, mais je pense qu'on doit descendre, si on veut, là, beaucoup plus bas au niveau des citoyens. Donc, c'est à nous de s'engager davantage. Chaque petit geste compte. Si on attend après les élus, on ne fera pas grand progrès. Donc, il faut vraiment, nous, le faire individuellement et demander à nos élus de faire davantage en termes de politique gouvernementale.
Donc, si les scientifiques nous alarment, ça ne veut pas dire perdez l'espoir, ça veut dire finalement, mobilisez-vous collectivement et individuellement. C'est ça le message que vous donnez.
Oui, vraiment, c'est ce qu'on doit faire. Et bien sûr, il y a de l'économie, mais je pense que si on va vers plus de travail pour réduire l'impact des changements climatiques, on va créer une nouvelle économie. Donc, on va changer les façons de faire et on est rendu là. Donc, je pense que les scientifiques, leur rôle, c'est d'alarmer. Maintenant, il faut réagir.
Alors, puisque vous parlez de réaction, Monsieur Quirion, il y a un domaine dans lequel la diplomatie scientifique pourrait être fort utile. C'est justement l'environnement. Il y a quand même un certain désaccord encore qui se ressent, peut-être pas sur la réalité des changements climatiques, mais sur la manière dont il faut l'aborder. Évidemment, il y a des impacts sur l'économie, sur les industries. Les pays abordent ça de manière un peu différente. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un mouvement collectif, mondial. Alors, sur le plan de la diplomatie scientifique, il y a quand même des discussions internationales. On en est où?
Il y a eu beaucoup, c'est sûr, par rapport à la COP21 à Paris, où là, vraiment, il y a un effort assez important signé l'entente de tous les pays qui étaient là-bas. Par la suite, encore une fois, la difficulté, c'est de revenir beaucoup plus local. Localement, c'est quoi l'impact de tout ça pour moi, travailleur dans un quartier de Montréal ou travailleur à Rimouski ou n'importe où dans le monde? Donc, et là, on doit changer probablement nos attentes de ce côté-là et dire, oui, ça va peut-être, entre guillemets, faire mal pour un certain temps, parce qu'on doit maintenant dire les changements climatiques, ça va avoir un impact sur moi. On change les choses, on change les façons de faire. Et là, ça va amener les diplomates, la diplomatie scientifique à faire les choses différemment. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, oui, ici au Québec, au Canada, mais encore plus en Afrique.
Alors, l'Afrique, on va y venir, hein, parce qu'effectivement, quand on parle de diplomatie scientifique à travers le monde, on évoque aussi, on est au Québec, la francophonie en innovation. C'est quand même un terrain de jeu vraiment intéressant. Mais je voudrais revenir sur, justement, le rôle du Québec comme leader dans cette diplomatie scientifique. On évoque le fait que le Québec marque actuellement des points en innovation. On pense notamment sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'Arctique. Est-ce que, justement, il a un rôle majeur et leader à jouer sur ces questions-là et éventuellement sur d'autres questions scientifiques à travers le monde du Québec?
Je pense que le Québec, on est petit. Hein, 8 millions d'habitants, souvent c'est la banlieue New York ou de Shanghai. Là. Donc, si on veut augmenter l'impact de ce que l'on fait en recherche et innovation, il faut faire des partenariats internationaux. Et le Québec peut le faire, le Canada, je dirais aussi, sans prétention. Donc, très souvent, c'est relativement facile d'ouvrir des portes à l'étranger pour le Québec. Le Québec, en termes de changement climatique, d'impact, impacts des changements climatiques sur notre société, a quand même été un leader avec les bourses de carbone, etc., etc. Donc, on peut jouer un rôle important là-dedans. Lors de la COP21 et par la suite 22 à Marrakech, le premier ministre du Québec de l'époque avait annoncé un grand programme d'aide, de financement de projets reliés au changement climatique en Afrique. Donc, les premiers résultats, les premiers projets ont été annoncés, les résultats ont été annoncés récemment. Il va y avoir une autre compétition. Donc, la place du Québec, comme en Afrique, pour aider, sans être prétentieux, c'est-à-dire on peut peut-être aider un peu, nous, à aller un peu plus loin. Par rapport à notre expérience, oui, on n'est pas dans le désert en Afrique, du Sahara, c'est pas du tout la même chose ici. Mais en Arctique, les problèmes sont encore plus criants qu'on peut les voir là-bas. Donc, je pense que l'expérience qu'on a appris jusqu'à date, c'est loin d'être parfait, mais on a fait des progrès. Donc, ça peut aider peut-être d'autres pays, d'autres régions du monde à réagir.
Alors justement, vous nous amenez sur ce terrain, effectivement, de l'Afrique et du lien qu'on peut établir avec l'Afrique. Et on pense évidemment à cette francophonie de l'innovation. On sait que l'Afrique est jeune, jeune population. Je crois qu'en 2050, elle représentera à peu près 90% de la francophonie en termes de population. C'est une Afrique qui attire les convoitises des puissances majeures, on va dire. Est-ce que le fait de travailler sur cette francophonie d'innovation, notamment avec l'Afrique, ça peut être un outil de développement important, voire majeur? Et est-ce que ça peut aussi être une solution aux pénuries de main-d'œuvre qu'on est en train aujourd'hui de constater dans certains secteurs? Est-ce que finalement, on doit former justement des gens là-bas pour pouvoir éventuellement pallier les problèmes qu'on a, nous, pays vieillissants?
Oui, je pense qu'en termes de changement démographique, le Québec est une région du monde, une des plus âgées en termes de moyenne d'âge. Le Japon est le premier. Nous, on est souvent le deuxième, plus âgé que les autres provinces au Canada. L'Afrique, comme vous avez dit, très, très, très jeune. Le futur de la francophonie n'est pas en France, n'est pas au Québec, il est en Afrique. Donc, vraiment, de créer des liens avec eux là-bas, et ça peut commencer du côté de l'enseignement. L'enseignement supérieur, les liens avec les universités, avec les collèges, les allers-retours. Et c'est pas pour dire qu'on veut attirer tous les Africains ici, et ils restent ici après. Il y en a un certain nombre qui vont
vous
rester.
Vous avez dit créer des liens.
Plusieurs vont faire les allers-retours, et c'est des liens à long terme.
Donc ça va dans les deux sens,
ça va dans les deux sens, et on apprend d'eux, eux apprennent de nous. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, en termes d'innovation, ils n'ont pas eu besoin d'avoir le fil électrique pour le téléphone, donc ils sont passés directement au cellulaire. C'est un peu la même chose maintenant dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple. Certains pays africains, pas nécessairement francophone, mais à tout le moins francophile, comme le Rwanda. Le président a décidé d'investir en intelligence artificielle, l'ordinateur quantique et l'Internet des objets. Donc, c'est le futur de ce pays-là. Donc, je pense qu'on peut faire de plus en plus et travailler avec eux de ce côté-là.
Puis, on voit que les partenariats se créent entre les universités québécoises et certaines universités africaines. On pense notamment à Trois-Rivières, à l'Université de Trois-Rivières. C'est justement ça, l'avenir, c'est ces partenariats aussi en recherche.
Je pense que oui, du côté de la francophonie. Mais il faut être là à long terme, une certaine pérennité. Parce que c'est certain que certains pays, comme la Chine, investissent de façon majeure. Et des jeunes là-bas, quand je suis allé là-bas, me disent est-ce que je dois continuer à apprendre le français ou plutôt aller vers le mandarin? Fait qu'il faut qu'on soit présent, sinon les autres vont prendre la place.
Alors, on a commencé à entamer la question de la main-d'œuvre scientifique et sa valorisation. C'est ce qui nous intéresse beaucoup ici chez Ces Sciences. En termes de main-d'œuvre scientifique et technique, parlons de la place des femmes, qui est effectivement un bassin important et pas encore tout à fait présent. On en est où au Québec?
On fait des petites avancées, mais je pense qu'il faut commencer très, très tôt. Au primaire, à l'école primaire, à l'école secondaire, parler des mathématiques, parler des sciences et démystifier tout ça. Parce que je pense que les femmes, les jeunes filles, peuvent apprendre les mathématiques aussi bien que n'importe quel garçon. Donc, il faut vraiment avoir des approches peut-être un peu différentes et d'expliquer un peu les mathématiques. Ça peut servir à quoi? Et de ce côté-là, déjà, il y a des programmes. Les brouillards, les petits débrouillards et autres. Là, il y a des programmes au Québec là-dedans, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et aussi, lorsqu'on arrive un peu plus avancé dans la carrière, si on arrive au niveau universitaire, donner des places aux femmes aussi. Avoir des modèles de professeurs, des femmes.
Sensibilisation et inspiration.
Et vraiment dire, là, à choix, pour deux curriculums, on va favoriser une femme. Et on est rendu là du côté diversité, inclusion et égalité.
Alors, l'intelligence artificielle, on l'a entendu dans le reportage de Jessica, pose de réels enjeux en termes de recrutement de main-d'œuvre, et en particulier celle qu'on appelle la main-d'œuvre appliquée, celle qui finalement utilise, fait que ça fonctionne effectivement dans les laboratoires. Et l'autre enjeu, c'est la disparité régionale qui est constatée entre oui. Montréal et oui. Donc les régions. Sur ces deux enjeux, on aimerait vous entendre, puis surtout savoir si vous avez des solutions à suggérer au gouvernement. Ça fait partie de votre rôle de scientifique en chef.
Vraiment, en termes d'intelligence artificielle, le positionnement de Montréal, c'est assez exceptionnel. Donc, il faut dire, oui, il faut continuer. Encore une fois, c'est une question d'y aller pour le long terme, parce que les investissements sur Montréal sont importants, mais c'est 10 fois plus en Chine, c'est 10 fois plus en Corée du Sud. Donc, c'est énorme.
Pour relativiser, c'est ça que vous dites.
Pour relativiser. Mais c'est vrai qu'au Québec, c'est centralisé beaucoup sur Montréal. Donc, il faut trouver des façons, et ça se fait maintenant, j'ai écouté le reportage avant, là, c'est super, comme avec Sherbrooke et autres, mais Québec international, à Québec. Travaille beaucoup sur ça maintenant avec les collèges, avec les universités là-bas pour recruter davantage d'étudiants. Souvent, c'est des étudiants étrangers parce qu'il manque de jeunes Québécois qui vont dans le domaine, là. Mais vraiment, avoir des stages en milieu de pratique, donc très pratique. Ubisoft, c'est bien sûr du vidéo, mais de plus en plus l'intelligence artificielle, Ubisoft a ouvert un site là-bas. Ils viennent d'ouvrir un site au Saguenay. Donc, je pense que maintenant, ça va commencer. Et de bâtir ce genre de réseau-là, pour nous, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de créer l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, et le réseau universitaire va être impliqué. Les 18 universités du Québec vont faire partie du réseau.
Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que réussir l'intelligence artificielle, c'est réussir sa construction sociale et économique aussi. Il y a un discours un peu comme l'environnement, dans le fond, c'est typique des grands changements et des grandes ruptures technologiques. Là, il y a un discours un peu pessimiste autour de l'intelligence artificielle qui parle des potentiels laissés pour compte parce qu'effectivement, il y a une possibilité de créer des formations et des compétences intermédiaires qui fassent que tout le monde s'élève autour de ce que suggère l'intelligence artificielle. Et puis, il y a évidemment toutes ces promesses incroyables, notamment dans le domaine de la santé, y compris dans le domaine industriel, qui sont en cours. Alors, on penche de quel côté sur le plan impact économique, là, est-ce qu'on est plus du côté des laissés pour compte ou du côté de la croissance économique?
Moi, je suis toujours, comme je disais au début d'entrevue, très optimiste. Donc, il va y avoir des impacts économiques, mais il faut faire très attention de ne pas laisser les gens en arrière. Donc, la littératie numérique, très important de ne pas laisser les gens en arrière. Donc, la formation dès l'école primaire, le secondaire, mais aussi les personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, partout au Québec. Et ça va être un peu le rôle aussi de l'Observatoire sur les impacts sociétaux, de s'assurer qu'on ne laisse personne en arrière. Que les différentes communautés, par exemple, les communautés d'immigrants, c'est peut-être plus Montréal, mais quand même, s'assurer qu'on peut aussi leur donner des outils pour comprendre la littératie numérique, très important. Les communautés du Nord, très important. Encore, malheureusement, l'Internet ne fonctionne pas très bien dans plusieurs communautés du Nord. Mais ces genres d'outils-là vont faire partie-là, outiller notre population pour le futur en littératie numérique, en intelligence artificielle. C'est essentiel, ça change le monde. Qu'on le veuille ou non.
Mais là, Rémi Quirion, on évoque tous ces défis, ces besoins. Il y a une politique qui est mise en place en recherche, en innovation, qui a été mise en place par le précédent gouvernement. Question simple, est-ce que le nouveau gouvernement va poursuivre la lancée? Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qui va être mis un peu plus... Est-ce qu'on va donner de l'ampleur à cette politique-là? On en est où?
On est en début du côté stratégie québécoise de recherche et innovation, c'est au début du processus qui a été rassurant avec le nouveau gouvernement. C'est bon, qu'on ne recommence pas tout ça à faire 2 ans de consultation.
On ne refait pas la SQRI, c'est ça.
Pour arriver au même point. Ouais. Maintenant, c'est un peu peut-être mon rôle et le rôle de collègue en milieu académique de dire c'est super. Déjà, on avait un plan sur 5 ans. Il faut aller un peu plus loin. Et par exemple, la stratégie numérique du gouvernement du Québec, bonne première étape, il faut aller plus loin. Encore une fois, les provinces, les pays investissent, mais le secteur privé investit encore davantage. Ce que le Québec peut faire dans un an, Google le fait dans un mois. Là. Donc, il faut vraiment aussi être là pour le long terme.
Et vigilant.
Oui, c'est intelligent que vous évoquiez la stratégie numérique à côté de la SQRI, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, parce qu'effectivement, lorsqu'on lit cette SQRI, Il y a plein de stratégies qui convergent autour de ce cadre. Il y a la stratégie de l'aluminium, il y a aussi la stratégie en entrepreneuriat qui est cruciale pour dynamiser l'innovation. Donc, effectivement, c'est un ensemble complexe. Mais juste sur la SQRI, il y a quelque chose qui est quand même frappant par rapport aux anciennes versions, c'est l'importance qui avait été donnée à la commercialisation. On ne le voyait pas autant avant dans les anciennes versions de la SQRI. On est toujours mieux classé au Québec sur le plan des publications scientifiques que sur le plan des retombées économiques de la recherche industrielle. Et on entend parfois aussi un malaise du milieu académique à l'idée de s'associer trop rapidement au privé. Est-ce qu'il y a quand même une avancée de culture, je dirais, dans le milieu scientifique par rapport à ça?
Je pense que oui, c'est pas unique au Québec. Le Canada fait pas très bien de ce côté-là non plus. Là, il y a beaucoup de défis au niveau canadien. Le gouvernement du Canada essaie de développer de nouvelles approches pour favoriser la commercialisation. Au Québec, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'offrir, nous, pour les fonds de recherche du Québec, par exemple, d'offrir plus de stages en milieu de pratique. Et le milieu de pratique peut être aller travailler chez Google, aller travailler chez Amazon ou quoi que ce soit, mais aussi, ça peut être aller au musée, là, les OBNL, par exemple. C'est ouvert à tous. Donc, les jeunes qui veulent avoir des stages peut-être plus pratiques, ben ça, on va le faire davantage. Donc, pour peut-être démystifier un peu l'innovation et la commercialisation. Dans la SQRI, il y a quand même pas mal aussi ce côté d'innovation sociale. Quand on pense innovation, souvent on pense à un produit.
Technologie,
Mais aussi tout cet aspect d'innovation sociale qui est très important et le Québec a certaines avancées là-dedans. Donc on veut continuer à investir davantage de ce côté-là et c'est un peu un des défis des fonds de recherche.
Merci Rémi Quirion. Je rappelle, vous êtes le scientifique en chef du Québec. Autrement dit, le boss, hein, tout simplement. merci beaucoup d'être venu au plateau de C'est l'Hebdo.
Merci bien.
Allez, avant de se quitter, Émilie, ton top 3 des événements pour la semaine qui vient.
Alors, à ne pas manquer cette semaine, le 6 novembre aura lieu une conférence sur la croissance internationale organisée par le journal Les Affaires. L'occasion d'en apprendre plus sur les opportunités d'affaires en lien avec les nouveaux accords de libre-échange et l'ouverture de certains marchés à l'international. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, pour celles et ceux qui travaillent fort pour développer leurs projets dans ce domaine, Desjardins Lab organise une rencontre avec l'accélérateur de start-up Next AI Team. Donc l'occasion d'en apprendre plus sur leur programme, ça se passe le 7 novembre à 17h au Lab Desjardins. Et enfin, le 8 novembre, participez à la célébration des 30 ans de Inno, donc qui est une organisation qui aide les PME puis les grandes entreprises à optimiser leur compétitivité. Donc l'événement se déroulera sur le thème « Il était une fois l'innovation ». Et c'est un événement à ne pas manquer puisque des conférenciers de renom seront présents. Par exemple, Bernard Kress. Bernard Kress, donc, qui est un grand chercheur qui a participé au développement de nombreux produits Microsoft. Et donc ces conférenciers viendront nous expliquer comment l'innovation se manifeste dans leur quotidien.
Et je vous rappelle que ce top 3 est consultable dans le détail sur votre plateforme d'information cscience.ca. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Recommencer de l'artiste Hubert Lenoir. C'est le choix de notre directrice de production, Lucille, qui n'est pas là, mais qui nous écoute. Coucou. Et Lucille qui suit l'actualité culturelle, puisqu'Hubert Lenoir a gagné, on le rappelle, 3 Félix dimanche dernier au Gala de la Disque. C'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci Jessica, merci Audrey, merci Émilie, merci Rémi Quirion d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS. À la recherche, Émilie Laurenceau et à la coordination plateau, Eve Jasmin, Philippe Regnault au micro, c'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à tous.